Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
Je suis vraiment honoré d'être votre prochain président et commandant en chef, et je serai toujours un fier enfant de l'État du Delaware.
Le jour du début de l'ère Biden, le 46e président prêtera serment tout à l'heure devant trois de ses prédécesseurs, Obama, Bush et Clinton. Trump aura déjà regagné la Floride. Ce matin, dernier acte de sa présidence, la grâce accordée à 73 citoyens, dont son ancienne éminence grise et directeur de campagne Steve Bannon. Biden, lui, vient de faire connaître ses premiers décrets. Retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Et au sein de l'OMS, arrêt des travaux du mur à la frontière avec le Mexique et fin du Muslim Ban qui interdit l'entrée sur le territoire aux citoyens de plusieurs pays musulmans. Dossier dans Europe Midi avec nos envoyés spéciaux Sonia Dredi, Xavier Yvon, Alexis Guilleux et Benoît Clerc et notre invité, l'éditorialiste du Monde, Alain Frachon. Dans le reste de l'actualité, le début des soldes d'hiver, les commerçants espèrent se refaire, la menace du variant anglais sur l'épidémie en France et la folie Arsène Lupin, les livres de Maurice Leblanc s'arrachent dans la foulée du succès de la série avec Omar Sy.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le dernier acte, dernier cadeau de la présidence Trump aura donc été pour Steve Bannon, l'homme qui l'a fait roi, principal artisan de sa campagne victorieuse d'il y a 4 ans. Bannon est gracié, ce qui veut dire que toutes les accusations contre lui seraient annulées s'il était condamné. Il est poursuivi pour détournement de fonds. Pour mémoire, Trump a refusé ces derniers mois la grâce de 10 condamnés à mort exécuté par la justice fédérale. Avant cela, pour ses dernières heures de président, Donald Trump a fait ses adieux en prononçant le discours le plus solennel et peut-être le plus présidentiel en 4 ans de mandat.
Alors que je termine mon mandat en tant que 45e président des États-Unis, je me présente devant vous avec une grande fierté pour ce que nous avons accompli. Nous avons fait ce pourquoi nous sommes venus ici, et bien plus encore. Cette semaine, nous inaugurons une nouvelle administration. Nous prions pour qu'elle réussisse à maintenir la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Nous leur adressons nos meilleurs vœux. Nous voulons aussi qu'ils aient de la chance.
Donald Trump, propos recueillis par Alexis Guilleux. Bonne chance, dit-il, mais sans jamais citer le nom d'un successeur qu'il ne croisera même pas. Joe Biden et Donald Trump ont pourtant dormi à quelques centaines de mètres de distance. Biden à Blair House, la résidence des hôtes de marque sur Pennsylvania Avenue. Trump à la Maison-Blanche, sa dernière nuit avant de plier bagages. C'est imminent, Xavier Yvon, vous êtes à Washington.
Alors oui, alors qu'il est, les invités à la cérémonie d'adieu de Donald Trump ne vont pas tarder à arriver sur la base militaire Andrews. Le président sortant a prévu un départ solennel avec tapis rouge et fanfare, mais ce sont surtout les absents que l'on va remarquer. D'anciens conseillers ont décliné, pas toujours poliment, et même le fidèle Mike Pence, le vice-président, n'assistera pas au départ de son patron. Donald Trump montera une dernière fois à bord d'Air Force One, direction la Floride. Il arrivera dans son club de Mar-a-Lago en fin de matinée. Et à midi, heure de la côte Est, 18h en France, il redeviendra un simple citoyen, puisqu'au même moment, Joe Biden prêtera serment à Washington. Alors qu'un président sortant et son successeur ne se croisent pas du tout, ça crée une complication pour le transfert de la fameuse valise nucléaire, qui, vous savez, ne quitte jamais le président des États-Unis. Le Pentagone a dû orchestrer cette passation délicate. Il y aura 2 valises nucléaires. La première s'envolera avec Donald Trump pour la Floride. La deuxième attend Joe Biden à Washington. Et à midi, donc, les codes de Donald Trump pour l'activer seront caducs, ceux de Joe Biden deviendront opérationnels, il sera alors le nouveau commandant en chef détenteur du pouvoir nucléaire américain.
Pas de Trump, mais 3 autres anciens présidents pour la prestation de serment de Joe Biden, Barack Obama, George Bush et Bill Clinton. Et pour la première fois dans l'histoire, l'accession d'une femme, Kamala Harris, à la vice-présidence de la première puissance mondiale, Benoît Clerc.
Oui Patrick, elle est la première femme d'origine indienne par sa mère, jamaïcaine par son père, à accéder à la seconde place de l'exécutif américain. Et lorsque l'on sait qu'à seulement 20 ans, elle était une simple stagiaire au Sénat, elle est vue aujourd'hui comme le rêve américain, réalisé en pleine lumière et modèle pour des générations à venir. Au moment même où son avion se posait hier à Washington, toutes les cloches des églises de la capitale ont sonné pour rendre hommage aux 400 000 morts de la pandémie. Quelques minutes plus tard, elle adressait un message de support aux proches des victimes.
Ce soir, nous faisons notre deuil et nous commençons à guérir ensemble. Nous, le peuple américain, sommes unis par l'esprit.
Même si depuis l'élection de novembre, Kamala Harris, que l'on dit ambitieuse, s'est discrètement glissée dans l'ombre de Joe Biden, Nul ne doute ici ce matin que c'est bien vers elle que vont se tourner les regards de centaines de millions de téléspectateurs qui suivront la cérémonie d'investiture en direct.
Benoît Clair aux États-Unis, ce matin de l'autre côté de l'Atlantique. Une autre femme, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est venue saluer devant le Parlement de Bruxelles ce grand changement américain. L'Europe a de nouveau un ami à la Maison-Blanche.
À nouveau, après quatre longues années, l'Europe a un ami à la Maison-Blanche. Cette aube nouvelle en Amérique, c'est le moment que nous attendons depuis si longtemps. Ce jour apporte de bonnes nouvelles. Les États-Unis sont de retour et l'Europe se tient prête à renouer avec un partenaire de longue date et de confiance, prête à revivifier cette alliance qui nous est si chère.
Ursula von der Leyen, propos recueillis par Isabelle Horry à Bruxelles. Et maintenant, au travail, Sonia Dridi, vous êtes aussi à Washington avec nos autres envoyés spéciaux. Joe Biden, qui sera dans quelques heures installé au bureau ovale, va prendre toute une série de mesures. Quelle priorité, Sonia ?
Eh bien, Joe Biden, qui fait face à des crises simultanées, pandémie et récession, est dans l'urgence. Il va donc signer dès cet après-midi toute une série de décrets pour contourner le Congrès. Il veut notamment rendre obligatoire le port du masque dans tous les bâtiments fédéraux et pour les voyages entre États. Il a promis 100 millions de vaccinations en 100 jours et la mise en place d'un protocole sanitaire strict pour ouvrir les écoles. Il est pressé de se démarquer de son prédécesseur, longtemps accusé de ne pas prendre la crise sanitaire au sérieux. En ce qui concerne l'économie, il a déjà annoncé un plan de relance de 1900 milliards de dollars. Plus généralement, Joe Biden veut réparer les dégâts causés par Donald Trump. Il devrait annoncer très vite la fin du Muslim Ban, qui interdit l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays musulmans, et l'arrêt de la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. Au niveau international, sa première mesure sera de rejoindre l'accord de Paris sur le climat.
L'accord de Paris et aussi le retrait des États-Unis de l'OMS sera annulé. Sonia, vous avez approcher ses conseillers. Que vous disent-ils de l'état d'esprit du nouveau président ?
Alors on sait que le thème de son discours d'investiture sera axé autour de l'unité nationale. Ce sera son grand défi, réconcilier les Américains. Lui qui a passé des dizaines d'années à faire des compromis avec les Républicains au Sénat est catastrophé de voir aujourd'hui le fossé idéologique entre les deux Amériques. Joe Biden, dont la vie a été marquée par de nombreuses tragédies, a fait de l'empathie sa marque de fabrique. Il va tenter d'apaiser le climat dans un pays qu'il dit ne plus reconnaître.
Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. Le tournant Biden, on y revient dans 10 minutes avec l'éditeur du Monde, Alain Frachon, invité d'Europe Midi.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La suite dans un instant, la menace pour la France du variant anglais, le début des soldes et la folie Arsène Lupin.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Avec les soldes d'hiver qui ont commencé ce matin, les commerçants espèrent sauver leur saison. Stéphane Place à Bordeaux, vous êtes allé compter les clients et comparer les prix.
Oui, moins 40, moins 50, moins 70% des rabais importants affichés ici dans les vitrines de la rue Sainte-Catherine, et un enjeu tout à fait particulier sur fond de crise sanitaire pour les commerçants, en particulier dans les magasins de vêtements comme celui que tient Benoît.
Bah, cette année, là, on se retrouve avec énormément de stock, entre plus 20 et plus 30% de stock. Ouais. Grosse pression, on espère vraiment que ça va marcher, ouais. Sauf qu'on ferme une heure plus tôt. Je sais que le commerce en ligne, de toute façon, explose. Moi, j'en fais pas. Après, on verra, on espère qu'il y aura une solidarité. Ouais.
Masqués, emmitouflés, se nettoyant les mains avec du gel hydroalcoolique d'une boutique à l'autre, Véronique et Myriam ont commencé les soldes dès l'ouverture.
Des prix accessibles et très honorables. On sait que la rue Sainte-Catherine et tous les magasins ont assez souffert, et donc faut jouer le jeu à fond pour la pérennité des petits commerces.
Pour les soldes, cette année j'ai beaucoup de chance, comme je travaille dans la restauration, je n'ai pas de travail. Donc je me suis levée plus tôt. J'ai profité du fait que beaucoup de magasins ouvrent plus tôt pour pouvoir faire mes soldes tranquillement.
Pas la foule des grands jours ce matin ici, mais l'espoir, c'est ce que répètent beaucoup de commerçants, de voir des clients se faire plaisir et dépenser l'argent qu'ils ont épargné durant les confinements successifs.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Pour la crise sanitaire, où que l'on regarde, peu de bonnes nouvelles à l'horizon. Le Portugal, qui semblait épargné ces derniers mois, est devenu le premier pays au monde en nombre de contaminations rapportées à sa population. 218 morts hier, nouveau record malgré le confinement général. En Allemagne, les restrictions sont durcies et prolongées jusqu'à la mi-février. Masques médicaux obligatoires dans les commerces et les transports en commun. Et au Royaume-Uni, l'hécatombe se poursuit. Plus de 1600 morts hier, chiffre jamais atteint en 24 heures. Dans ce tableau, la France fait figure d'exception. Mais pour combien de temps ? Victor Deland, une étude de l'INSERM, vient d'établir plusieurs scénarios sur l'arrivée prochaine du variant anglais.
Oui, déjà, la situation épidémique est en constante augmentation depuis plusieurs semaines. Alors, c'est un plateau haut, on vous le répète beaucoup, un plateau haut qui gravite autour de 20 000 contaminations par jour. Et si on se compare avec les autres pays européens, notre situation n'est pas si dramatique. C'est vrai, sauf que, le variant anglais va très rapidement changer la donne. On estime aujourd'hui qu'il y a environ entre 200 et 300 nouveaux cas par jour de ce variant, ce qui représente à peu près 1,4% des tests PCR positifs actuellement. Et comme ce variant est beaucoup plus contagieux, les projections dans les prochaines semaines sont assez pessimistes, comme l'explique Vittoria Colizza, directrice de recherche à l'INSERM et spécialiste en modélisation des maladies infectieuses.
Avec 1,4% des présences de variants sur le territoire français en début de l'année, on peut avoir une croissance qui va aller assez vite dans les semaines à venir, en doublant chaque 8 à 11 jours, donc s'est retrouvé dans une situation où ces virus, ces variants deviennent dominantes déjà fin février, début mars.
Une situation d'autant plus pessimiste qu'il n'y a très peu de marge dans les hôpitaux français. Actuellement, 25 000 personnes sont hospitalisées à cause du Covid et 2 800 patients sont déjà dans les services de réanimation. Et si le variant anglais se propage comme le prévoient les projections de l'INSERM, ça voudrait dire que le nombre actuel d'hospitalisations pourrait tout simplement doubler d'ici la fin février. Si et seulement si aucune mesure politique plus restrictive n'est prise d'ici là.
Victor Delande, ils sont des millions à travers le monde à suivre Omar Sy en Gentleman Cambrioleur, énorme succès de la série Netflix, et ils sont des milliers en France à découvrir ou redécouvrir les véritables aventures d'Arsène Lupin, les histoires de Maurice Leblanc, L'Aiguille d'Étretat, entre autres, ses livres s'arrachent, Nicolas Caro.
L'aiguille creuse, oui.
Et l'aiguille vous creuse, savez, oui, mais à Étretat.
À Étretat, effectivement. Oui. Vous savez d'où vient l'expression Gentleman Cambrioleur, c'est le surnom du héros, mais c'est aussi le titre du premier original recueil de nouvelles publié en 1907. Arsène Lupin, c'est un classique, c'est un succès depuis sa sortie. Il est toujours dans les prescriptions de lecture au collège, et parfois il y a un pic, et c'est le cas en ce moment, grâce à la série. Les éditeurs veillent toujours ce genre d'événement. Hachette Roman avait réédité le recueil pour l'occasion. Le livre de poche aussi a relancé les impressions, mais ils ne s'attendaient quand même pas à un tel succès. 60 000 exemplaires ont été réimprimés en urgence. Arsène Lupin est en tête des ventes Amazon et Fnac. Béatrice Duval, la directrice générale du livre de poche.
Je dois dire qu'on a été un peu dépassé par l'ampleur du phénomène de cette série formidable et on a vendu, pour vous donner un ordre d'idée, en 15 jours, on a vendu la totalité des exemplaires qu'on vend normalement sur une année. Donc on réimprime à toute vitesse, il faut 2 ou 3 jours pour que les livres soient réimprimés et donc ils sont tous en librairie et tous disponibles.
Et belle opération puisque l'œuvre de Maurice Leblanc est tombée dans le domaine public depuis 2012. Arsène Lupin a encore tout raflé, quoi.
Et ben voilà, exactement. En termes de commerce, ça s'appelle Hold up. Merci Nicolas Caro. Le temps, Anissa Dadi, le vent souffle très fort en région Rhône-Alpes.
Oui, avec 3 départements, Patrick, placé pour l'instant en vigilance orange vent fort. Il s'agit de la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. Le vent du sud souffle fort à plus de 110 km/h en centre-ville, 120 km/h hein, sur le Lyonnais cet après-midi. Alors ce vent devrait se calmer dans ces régions en début de nuit. Le vent souffle sur une grande partie du pays cet après-midi, dans le nord-ouest, sur les côtes de la Manche et tout le long de la façade atlantique. Là aussi, on aura du vent fort qui pourra atteindre les 90 km/h dans les terres, dans le Limousin par exemple. Dans les Pyrénées, le vent dépassera très souvent les 110 km/h. Et puis de la Méditerranée à l'Auvergne, cet après-midi, les rafales seront très importantes. Seule la Corse, pour résumer la situation, seule l'île de Beauté est à l'abri de ces vents forts cet après-midi. Vigilance aussi, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler à 18h. Le vent fort va arriver sur l'île de France et le Nord-Pas-de-Calais ce soir et cette nuit. Et là aussi, ça va souffler très fort. Les températures, elles sont douces, 7 à 15 degrés.
Merci à vous, Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Trump, un départ sans retour. Biden à la place, pour quoi faire? Pour quoi réparer? On en parle tout de suite avec l'éditorialiste du Monde, Alain Frachon.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Alain Frachon.
Bonjour Patrick.
Éditorialiste au Monde, ancien correspondant à Washington, vous écriviez dans votre dernière chronique que Trump sortirait habillé comme le méchant à la fin d'un western avec le goudron et les plumes. C'est le cas, et c'est peut-être même pire encore ce que vous imaginiez il y a une semaine, parce qu'il aura qu'une poignée de fidèles, une toute petite poignée de fidèles pour lui dire au revoir tout à l'heure sur la base d'Andrews.
Déjà, la base d'Andrews, qui est une base militaire, une base aérienne militaire, ne se prête pas vraiment à faire une grande fiesta. Donc il part véritablement en catimini parce qu'il est prisonnier de son mensonge. Il considère qu'il n'a pas perdu l'élection, il ne va pas aller serrer la main du président qui a gagné, du président qui va lui succéder, et même cette petite cérémonie où en général on fait visiter la Maison Blanche au couple qui vient s'y installer, même celle-là n'aura pas lieu. Donc, si vous voulez, il part avec, d'une certaine manière, la même brutalité et la même vulgarité avec laquelle il est arrivé à la Maison Blanche. Et dès cet après-midi, après l'inauguration à Washington, il sera en train de jouer au golf.
Deux grands absents. Son vice-président Mike Pence, qui était un fidèle absolu jusqu'à l'invasion du Capitole, et le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell, sénateur du Kentucky, qui est l'un des grands patrons du Parti républicain. Est-ce que le discours le plus important de ces dernières heures n'est pas celui de Mitch McConnell, qui a été une véritable charge pour dénoncer le comportement de Trump lors de l'assaut du Capitole?
Mitch McConnell, qui doit avoir 78 ou 79 ans, sénateur du Kentucky depuis, je crois, à peu près 25 ou 30 ans, cette voix chaude, un peu travaillée au bourbon, qui est la principale production du Kentucky, une production très noble. McConnell, si vous voulez, c'est la quintessence du républicain qui fait systématiquement de l'objection. Il a quasiment empêché Barack Obama. À l'époque, Mitch McConnell était le chef de la majorité républicaine au Sénat, majorité qu'ils ont perdue aux élections du 3 novembre, et pendant les 8 années d'Obama, il a systématiquement dit non, non, non et non. C'est donc une défection énorme pour le camp trumpiste. Et ça veut dire que les couteaux sont tirés à la direction du Parti républicain. Alors, le Parti républicain a perdu le Sénat, donc McConnell se sent libre de parler aussi, d'autant plus. Mais vous avez deux immenses personnalités républicaines qui sont McConnell, le vice-président Mike Pence, et de l'autre côté, il y en a aussi au Congrès, à la Chambre des représentants, avec la numéro 3 du Parti républicain à la Chambre, Liz Cheney, qui est la fille du vice-président Cheney. Ça, c'est le camp qui ne veut pas que Trump disparaisse de l'horizon républicain. Et parmi ces gens-là, il y en a qui vont au Sénat, lorsque le procès viendra au Sénat, puisqu'il est inculpé d'incitation à l'insurrection. Je ne sais pas ce que votera Mitch McConnell, mais apparemment, il votera la destitution et il essaiera d'entraîner d'autres sénateurs avec lui. Il en faut 17 sur 48 ou 49 pour que Trump soit bel et bien destitué, ce qui serait la première fois dans l'histoire des États-Unis, puisqu'aucun président n'a jamais été destitué. Donc les couteaux sont tirés pour récupérer l'électorat trumpiste. De l'autre côté, il y a notamment des gens qui veulent être les héritiers de Trump et qui entérine le mensonge sur l'élection volée. Le sénateur Cruz, par exemple, Hollett. Ceux-là veulent être candidats à la prochaine élection présidentielle, ou bien en se revendiquant de Trump, ou bien suivre Trump s'il n'est pas destitué et s'il a le droit de se représenter, ce qui n'est pas évident. Parce que le Sénat peut peut-être voter sur sa destitution, ne pas avoir la majorité pour sa destitution, la majorité des deux tiers, mais voter une interdiction à Trump de se représenter à toute fonction élective. Bataille au couteau à l'intérieur du Parti républicain.
Qui va déterminer l'avenir politique de Trump? Il a dit hier soir lors de son dernier discours, c'est un mouvement qui commence ou qui continue, je ne sais plus exactement, mais il y a une poignée d'hommes à la tête du Parti républicain qui peuvent lui barrer la route et interdire un éventuel retour politique. Mais Trump, on peut lui faire confiance, sera forcément présent d'une façon ou d'une autre dans ce chaudron qui est devenu la société américaine. Alors, Joe Biden, parce qu'il est, il est temps d'en parler, Joe Biden, qui, on l'a vu encore hier soir sur le mall de Washington pour rendre hommage aux 400 000 victimes du Covid, qui paraît bien frêle pour une telle épreuve, mais il est souvent comparé, me disiez-vous, Alain Frachon, à Roosevelt, qui n'était pas non plus physiquement très vaillant en 1933.
Ce qu'on dit souvent, si vous voulez, c'est que des présidents, des hommes qui sont arrivés à la Maison-Blanche en mauvaise forme physique, on en a connu pas mal déjà. Par exemple, John Kennedy, au début des années 60, à la fin des années 50, John Kennedy. Mais il y en a eu d'autres aussi. Et notamment Roosevelt, dont la santé va se détériorer très rapidement. Vous me direz, il fera quand même 3 mandats et demi à la Maison-Blanche. Et il sera l'homme qui construira l'État-providence et qui mènera les États-Unis dans la bataille contre le nazisme. Mais voilà, donc 78 ans, c'est vrai qu'il fait son âge, Biden, hein, il fait son âge, il fait des gaffes, il est très émotif dès qu'il s'agit d'évoquer les tragédies qui ont marqué sa famille. Il pleurait un peu, il a essuyé une larme hier en parlant de son fils, il a perdu un fils qui a eu un cancer du cerveau, qui est mort d'une tumeur au cerveau, voilà, Beau Biden. Mais ne vous y trompez pas. Il a une sacrée carrière politique derrière lui. Il a été le vice-président de Barack Obama à un moment qui ressemble un peu à la situation actuelle. Les États-Unis étaient dévastés économiquement par la crise de 2008, la fameuse crise des prêts hypothécaires, vous savez. Et il a fallu lancer un plan de relance, par l'investissement public et par la dépense publique. Et c'est lui qui s'en est chargé. Obama a dit à Biden, tu t'occupes de ça. Pourquoi ? Parce que en tant que professionnel qui sait manier le Congrès, ce que ne savait pas faire Obama, ou très mal, Biden est un professionnel. Il a 30 ans de maniement du Congrès. C'est un parlementaire dans l'âme. Et aux États-Unis, en dépit du fait que c'est un système présidentiel, on ne gouverne pas sans le Congrès. Ou alors la marge de gouvernement est limitée par les directives présidentielles, les décrets du président. Or, si quelqu'un est capable d'entraîner le Congrès dans la lutte contre cette double crise liée, la contraction économique énorme qui frappe les États-Unis, comme l'Europe aussi, et puis le Covid qui frappe très durement les États-Unis, je crois 400 000 morts au jour d'aujourd'hui, vous disiez
tout à
l'heure.
On a passé la barre, oui.
Et donc, c'est l'homme, il peut être l'homme de la situation. Et beaucoup de gens, en ce moment, aux États-Unis, dans la presse, les débats, la télévision, etc., le comparent un peu à Roosevelt et se demandent s'il n'y a pas un moment rooseveltien pour Joe Biden, c'est-à-dire un moment pour recréer l'État-providence, une manière d'État-providence face à cette double crise.
En une minute, Alain Frachon, quelques mots sur ces conseillers, son gouvernement, son entourage. On dit, on lit partout que c'est le retour de la revanche de l'équipe Obama, c'est vrai ?
Oui, c'est assez vrai. Ce sont les gens qui avaient 40 ans dans l'équipe Obama qui reviennent au pouvoir. C'est une équipe très inclusive, vilaine expression, mais qui veut dire qu'elle comprend des minorités ethniques. Je crois qu'il y a même quelqu'un, un ministre qui est transgenre, enfin...
Beaucoup de femmes, oui.
Voilà, beaucoup de femmes. 49% de femmes au plus haut poste de l'exécutif américain, et notamment une amérindienne pour la première fois, ministre de l'Intérieur.
Et la ministre de l'Économie, Janet Yellen.
Ministre de l'Économie, ancienne patronne de la Banque Centrale Américaine, la Réserve Fédérale. Une équipe très compétente, très centriste, plutôt que gauche, plutôt centre, plutôt que centre-gauche, mais très compétente et très expérimentée.
Merci beaucoup Alain Frachon de nous avoir éclairé en ce jour si important où l'Amérique tourne la page. Merci à vous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le 13h de Christophe Lamarre, puis La France bouge, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Bonne journée.